Bonjour, vous écoutez Le Pouvoir d'Oser. Dans ce podcast, vous allez découvrir des histoires de femmes courageuses, de femmes résilientes, de femmes qui font bouger les lignes au quotidien. Celles que vous allez écouter ont changé de vie, se sont lancées un défi ou se battent pour vivre leur rêve d'enfant. Et si ces femmes ont accepté de se raconter, c'est avant tout pour transmettre à d'autres la petite étincelle qui, un jour, leur a permis de se dépasser, le pouvoir d'oser. Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté de nous répondre. Peux-tu te présenter ?
Bonjour, je m'appelle Nathalie Gandelin, j'ai 57 ans, j'ai deux garçons de 28 et 30 ans qui habitent très loin et ce n'est pas un détail dans ma vie, c'est pour ça que je le précise. Je suis passionnée de langue et j'adore apprendre. En 2009, à la suite d'un licenciement, j'ai décidé de changer de vie radicalement.
Peux-tu nous parler un peu de ton parcours, ce qui t'a amenée dans cette voie ?
Alors, étant passionnée de langue, j'ai fait une formation de secrétariat trilingue, allemand, anglais, français. Au début, je souhaitais être interprète, mais bon, ça n'a pas été possible pour des questions financières. Mais j'ai pu quand même assouvir ma passion des langues en faisant des études courtes pour travailler très rapidement. Et là, comme l'assistana me plaisait énormément et que j'adore rendre service, j'ai beaucoup travaillé en binôme. Tout d'abord, comme assistante achat puis commerciale pendant 16 ans, dans une société de transmission mécanique à Lyon, où j'ai beaucoup appris. Mais au bout d'un moment, j'avais besoin d'étendre mes connaissances, comme toujours. Donc, j'avais cette volonté d'être technico-commerciale, je suis partie. Et un des critères importants pour retrouver un job était pour moi d'aller travailler en vélo. Donc, j'ai trouvé une société toujours franco-allemande, pas très loin d'où j'habite, et j'ai eu cette chance d'aller travailler en vélo et toujours parler allemand. Donc, ça s'est très bien passé. On boostait l'entreprise avec mon binôme. Mais en 2008, malheureusement, il y a eu la crise et j'ai été licenciée très sèchement, en quelques secondes, d'une manière abusive. Parce que aussi j'étais une femme, et il n'y avait que des hommes dans cette société. Et pour moi, évidemment, ça a été un choc mental et une remise en cause de près de 25 ans de salariat qui, d'un coup, s'écroule.
Et du coup, après ce licenciement, comment t'en es-tu remise ?
Alors, ce licenciement, pour moi, était abusif. Donc, évidemment, il y a eu un procès qui a duré 3 ans, que j'ai gagné, qui a été reconnu. Et donc, ça m'a permis un peu de me dégager l'esprit, parce que vous avez toujours ça en tête quand vous êtes licencié. C'est un choc mental, une routine qui n'existe plus. Donc, il faut le digérer. Et le fait d'avoir fait ce procès m'a permis aussi de tourner une page. Mais c'est long, 3 ans, donc parallèlement, au bout d'un mois, j'ai décidé de ne plus pleurer et de prendre ma vie vraiment entre mes mains. Sauf que, j'ai beaucoup de chance. J'ai aussi une famille qui est très proche et qui m'a permis aussi de rebondir parce que psychologiquement, ça a été très très dur à avaler. Mon mari m'a dit, mais profites-en pour faire ce que t'as envie dans la vie. J'avais 48 ans, donc pas loin des 50. Et c'est un choc à 48 ans de vivre ça. Donc à ce moment-là, comme j'avais été acheteur, je voulais avoir une reconnaissance de ce métier. Et pour valider mes acquis, je me suis inscrite dans un master de responsable achat. Et j'ai repris mes études pendant 2 ans.
Donc tout va bien pour toi. Tu rebondis et comment tu te sens ? Tu te sens bien ?
Oui, il a fallu du temps, mais le fait de reprendre cette formation m'a fait connaître aussi une autre ambiance. Ça m'a permis de reprendre des études et d'apprendre à apprendre aussi, parce que quand on travaille, qu'on a des enfants, on a des routines. Là, c'était vraiment une implication personnelle, en même temps que mon fils, d'ailleurs, qui passait son master la même année que moi. Donc, pour moi, c'était un challenge, pour lui aussi, bien sûr. Et puis, cette crise, elle a duré pas que pour moi, parce que moi, je suis une passionnée de Crète depuis une vingtaine d'années et j'allais en Crète en tant que touriste Je suis amoureuse de cette île, j'ai plein d'amis là-bas, je vis dans un village depuis des années et avec cette crise, mes amis crétois m'ont demandé si en tant que touriste, je ne pouvais pas faire connaître leur huile d'olive en France parce que pour eux, c'était important aussi. Cette crise les a vraiment touchés et nous, on venait en tant que touristes prendre du bon temps pendant 3 semaines. Et là, j'ai été touchée par leur demande. Et du coup, ça m'est resté en tête, mais c'est vrai que je voyais pas trop comment faire. Alors, comme j'ai vu leur niveau de vie se dégrader d'une année à l'autre, finalement, j'ai dit, allez, on fait venir une palette d'huile et puis on fait une étude gustative pour voir si vraiment il y a matière à les aider. Et là, j'ai fait cette étude gustative auprès des étudiants avec qui j'étais en master d'acheteur. C'était une évidence pour eux pour 2 raisons. Le produit d'excellence, une huile d'olive extrêmement fine, avec un retour poivré en fin de bouche, pas de mélange d'huile européen, vraiment une production d'excellence. Et puis, vis-à-vis de moi, ils m'ont dit, mais finalement, t'es faite pour ça, t'es faite pour vendre et non pour acheter. Donc du coup, ça m'a perturbée mentalement. Je me suis dit, mais bon, je pense que t'es faite pour ça. Et donc, en plus, parallèlement, je suivais une formation chez Force Femmes. Au départ, pour trouver un nouveau job, mais j'avais une coach à qui j'en ai parlé et elle m'a dit, mais non, mais il faut y aller, Nathalie, t'es faite pour ça, monte ton entreprise. Alors, banco, je l'ai donc fait.
C'est donc ton entourage qui t'a aidé à ouvrir les yeux sur la situation ?
Oui, j'écoute beaucoup ce qui se passe autour de moi, aussi bien les gens qui me connaissent pas ou peu que ma famille. Et donc, tout convergeait vers cette volonté d'entreprendre.
Et comment ça se passe au début ?
En fait, comme c'était pas dans mon plan de départ, un chasseur de tête m'a recherché pour être commercial toujours à l'import-export, parce que j'ai beaucoup travaillé avec l'étranger. Donc j'ai accepté ce job et en même temps j'ai monté mon entreprise. Mais c'était très compliqué parce que pendant 3 ans j'avais des semaines extrêmement chargées. Je perdais 1 kilo par semaine parce que je travaillais pratiquement 24 heures sur 24. En plus, j'étais dans une grosse entreprise où le management ne me plaisait pas. Donc, c'était très, très difficile à me concentrer pour développer mon entreprise. Moi, on va dire, le week-end, je prenais le commerce éthique auprès de mes clients. Je faisais des dégustations de produits extrêmement bons pour la santé. Et puis, le lundi, j'arrivais... J'étais dans une société chimique de produits que j'exportais en Afrique auprès de très grands groupes. Donc, il y avait une incohérence entre ce que je vivais le week-end dans mes petits salons de dégustation et auprès de ma clientèle et la semaine où je prenais un autre langage. Donc, j'avais un cerveau qui passait d'un état à l'autre toutes les semaines depuis des mois. Donc, au bout d'un moment, j'ai eu un déclic. J'ai dit, il va falloir faire un choix parce que de toute façon, je n'arrivais plus à développer mon entreprise. Et donc, j'ai pris la décision, comme je dis, toujours face à la mer. J'étais en Bretagne parce que face à la mer, il n'y a pas de limite. On ne voit pas le bout. Et donc, le 4 janvier 2016, j'ai démissionné purement et simplement pour dire ciao à mon emploi et me lancer complètement dans mon entreprise.
Et après ? Parce que j'imagine que ce n'est pas aussi facile entre la démission et la fondation d'une entreprise.
Non, c'est pas facile. Alors déjà, il y a le côté financier aussi. Du jour au lendemain, moi j'ai toujours démissionné purement et simplement. Donc le mois d'après, vous vous débrouillez financièrement. La fondation d'une entreprise, il faut être accompagné. Je crois que c'est le béaba de l'entrepreneuriat. On a une idée, soit, on a tous une idée. Au départ, une entreprise démarre par une idée. Mais on n'a pas les épaules assez larges pour être acheteur, commercial, développeur. Tous les métiers que vous avez dans une grosse entreprise, c'est vous qui devez les supporter. Donc, l'accompagnement est extrêmement important. En ce qui me concerne, moi, j'ai été accompagnée par Force Femmes au niveau du coaching, ça a été vraiment exceptionnel. Je suis tombée sur quelqu'un qui a compris ma volonté d'entreprendre et mes doutes. Et puis, chez Force Femmes, vous avez énormément d'ateliers aussi pour rencontrer d'autres personnes qui sont dans votre cas et vous pouvez vous positionner parce que, en fait, c'est en se positionnant par rapport aux autres qu'on comprend ses lacunes ou ses forces. Donc ça, c'est super important. Et puis, habitant à côté de Lyon, j'ai beaucoup fréquenté le Mix Coworking de Tassin et la responsable m'a permis de m'ouvrir les yeux en rencontrant plein de TPE et aussi en organisant des ateliers très formateurs pour avancer dans l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, c'est aussi prendre le temps pour se former, pour échanger avec d'autres personnes et surtout ne pas rester seul. Et ça, il faut savoir le gérer parce qu'évidemment, on est pris par le temps. On a des journées quand même très, très chargées. Mais dans son planning, il faut toujours garder du temps pour échanger avec d'autres entrepreneurs ou pour se former.
Et est-ce que tu as eu des moments de doute, des moments où tu as voulu abandonner ?
Alors, dans l'entrepreneuriat, on a toujours des moments de doute, mais finalement, il faut oser. Moi, je suis très, très bien entourée. J'ai un conjoint qui a la même passion que moi. Il est crétois de cœur comme moi. Donc, on se soutient aussi. Il est complètement à 100% dans mon projet, en tout cas psychologiquement. Il m'aide aussi. Bien sûr qu'il y a des moments d'angoisse avec ce qu'on vient de vivre, avec le Covid. Ça a été un très, très grand moment d'angoisse. Parce que du jour au lendemain, on vous dit on arrête tout, il faut rester confiné. Et moi, en fait, je n'avais qu'une idée en tête, c'était de sauver ma société coûte que coûte avec tout ce que j'avais entrepris depuis des années. Je ne pouvais pas abandonner mes producteurs avec lesquels j'ai un engagement éthique très, très important.
Et tout cela, comment les as-tu gérés ? Le parcours d'entrepreneur n'est-il pas trop solitaire ?
J'essaie toujours de trouver des solutions qui me permettent d'avancer. Et le regard extérieur m'apporte beaucoup. C'est pour ça que je fais partie d'associations avec lesquelles j'échange beaucoup sur l'entrepreneuriat et qui m'ouvrent des pistes. Et puis surtout, je me forme constamment. J'ai découvert d'autres produits en Crète. J'ai découvert un apiculteur qui fait du miel de thym sauvage avec qui je travaille. Et j'ai tellement été subjuguée par son travail que du coup, j'ai fait une formation de 2 ans d'apicultrice pour encore mieux appréhender ce job, mieux comprendre le produit et m'investir complètement. J'ai une soif d'apprendre et d'avancer. Donc non, je me sens pas seule parce que je suis très entourée.
Aujourd'hui, en quoi ce nouveau projet te ressemble ? En quoi est-il le reflet de ce que tu es vraiment ?
Alors moi, j'aime d'abord aider les autres. Donc là, par rapport à mes producteurs, c'est gagné. J'ai vraiment l'impression de faire quelque chose qui a du sens. J'aime la nature et les bons produits. Donc évidemment, les produits crétois, quand on s'y intéresse, c'est vraiment des produits exceptionnels. J'accompagne mes producteurs aussi pour aller dans ce sens. J'ai l'impression d'être le maillon entre le producteur que j'accompagne et que j'aide pour vraiment avoir des produits de très grande qualité, afin que mes clients que j'ai en direct, puisque je travaille beaucoup en B2C, puissent bénéficier de cette qualité de produit pour leur santé. Donc pour moi, ma société a véritablement un sens important.
Quelle est la plus grande leçon que tu tires de cette aventure ?
Alors, il n'y a pas que la chance, bien sûr, dans l'entrepreneuriat, mais en ce qui concerne ma famille, j'ai vraiment la chance d'avoir un conjoint sur qui je peux compter, avec lequel on échange énormément. Donc, il faut avoir vraiment confiance l'un et l'autre. Et c'est un super projet de famille aussi, après une vie trépidante de 30 ans de salariat dans l'industrie.
Un conseil pour celles qui ne trouvent pas encore le pouvoir d'oser ?
Mais oser, c'est dépasser ses peurs pour être heureux. C'est vraiment se retourner en disant « mais je ne regrette rien ». Oui, il faut avoir beaucoup de volonté, c'est sûr, beaucoup de courage, mais se retourner en disant « je ne regrette rien », je pense que c'est un pari gagné.
Et si c'était à refaire ?
Je le referais tout de suite.
Merci beaucoup, Nathalie.
C'est moi qui vous remercie.
Merci d'avoir écouté ce premier épisode du Pouvoir d'oser. Nous espérons que le témoignage de Nathalie vous aura donné envie de suivre votre intuition entrepreneuriale. Le Pouvoir d'Oser est un podcast de la marque Grain de Malice. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous.